חשיבה. האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן? אם תזכרי אותי סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן?
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le... Oui. Nous sommes, pardon. Nous sommes le vendredi 2 juillet 2021. Et nous sommes ensemble pour trois quarts d'heure aujourd'hui. Et comme tous les soirs depuis le début de l'Euro, eh bien, on joue l'Euro.
La petite pichenette vers Axel Witsel.
Witsel qui récupère la passe en retrait. Pour Lukaku, on va contrôler. Mais lui, tu vas nous la mettre. Mais lui, c'est go.
Cristiano Ronaldo. Gol de Portugal.
Antoine Griezmann.
Robert Lewandowski.
Harry Kane coming away.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont joue l'Euro, une édition sous haute tension. Il y a de la tension dans le studio, on peut le sentir. Autour de moi ce soir, Blaise van der Linden. Bonsoir Blaise.
Bonsoir à tous, et oui, c'est vrai que la tension est palpable.
Steve Gris, bonsoir Steve.
Bonsoir à tous, chaud patate.
Et Didier Cohn, bonsoir Didier.
Bonsoir à tous, c'est vrai que c'est chaud patate.
Eh oui, puisqu'on est à 58 minutes pour vivre, non, 58 minutes du match du quart de finale qui opposera la Belgique à la Squadra Azzurra. On va en parler bien sûr, on va également parler du match qui est en train de se dérouler actuellement. C'est l'Espagne qui affronte la Suisse, l'étonnante équipe de Suisse qui est venue à bout de l'équipe de France lors du match précédent en huitième de finale. Sachez, amis auditeurs, si vous ne suivez pas, que l'Espagne a ouvert la marque à la sixième minute sur une frappe détournée par Zakaria, le médian suisse, et que Shaqiri a réussi à égaliser pour l'équipe de Suisse à la 68e minute, mais que depuis la 80e minute, la Suisse joue à 10, et là on est dans la prolongation qui a commencé depuis à peu près 8 minutes, on est donc toujours à un but partout. On va en parler, on vous tiendra informé de l'évolution du match.
Que de surprises, ça continue.
Ça
poursuit les surprises de l'Euro. Hein. Mm-hmm. Avec ces formations, personne n'attendait cette Suisse. Hein. Cette Suisse qui revient quand même, qui a joué il y a quelques jours, qui a joué des prolongations.
Et des pénalties.
Chapeau.
Ouais. Mais l'Espagne aussi a joué des prolongations. Donc je pense que cette prolongation-là, si on va... On va aller au terme de cette prolongation... Les deux équipes vont être mortes, je pense.
Et d'autant qu'ils avaient bénéficié, on a bénéficié au tour suivant de plus ou moins une petite semaine de repos. Là, on parle plus d'une petite semaine de repos, on parle de 4 jours. Hein, donc tout ça va laisser beaucoup de traces. Hein.
C'est vrai. Et on rappelle que le vainqueur de ce match affrontera bien sûr le vainqueur du match de ce soir. Belgique.
Affrontera la Belgique, donc.
je veux pas être. Faut pas dire
c'est risqué,
hop.
Ça, Steve.
Faut pas dire hop avant de sauter. Jamais. En tout cas, voilà. C'est sûr que le vainqueur. Enfin, sauf s'il y a des prolongations et que ça va au bout du bout ce soir. En tout cas, celui qui sortira vainqueur du match de ce soir aura un adversaire sans doute fatigué. Un adversaire inattendu aussi. L'Espagne sans doute moins que la Suisse, mais l'Espagne, on l'a vu démarrer, on l'a vu débuter, c'était pas bien brillant lors des premiers matchs. Ils montent en puissance, ils ont des joueurs qui se sont affirmés, je trouve. Sarabia, qu'on n'attendait pas là, Pedri, que je trouve formidable, qui a 18 ans seulement, et puis tous ces autres joueurs.
Et Morata aussi. Morata qui est critiqué depuis le début de l'Euro et qui, au final, dans les deux derniers matchs, fait vraiment une superbe compétition. Enfin, il rate son pénalty contre la Slovaquie à la première journée, et maintenant il est en train de se. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il est en train de se révéler très bon. Quoi.
Et c'est vrai que même s'il marque pas, il pèse beaucoup. Il pèse beaucoup dans le jeu de son équipe.
On l'a senti lors du dernier match où il marquait un goal. On l'a senti vraiment libéré. Il a vraiment eu le point rageur de la personne qui est extrêmement critiquée par la presse et qui comme toute l'équipe, et puis qui finalement délivre.
Mais c'est ça surtout qui est incroyable, c'est que au début de cet Euro, l'équipe d'Espagne était presque honni dans son propre pays. Ouais, enfin, c'est dingue. Le fait déjà qu'il n'y ait aucun joueur du Real Madrid a coupé l'Espagne en deux. Et au final,
d'autant que, en fait, c'est toujours cette même guéguerre. Le sélectionneur est affublé du label Barcelone. Alors on me dit, oui, il a joué dans les deux, mais j'ai regardé, il a joué 6 mois au Real Madrid.
Oui, il a pas.
C'est un Catalan pur sang.
Il a même pas joué un an. Donc vraiment, il a affublé Barcelone et il prend ce choix. Tout à fait risqué de me prendre dans un pays dont on sait
exceptionnel. C'est la première fois qu'une sélection espagnole, toute compétition confondue, n'a pas un seul joueur du Real Madrid. Ça paraît fou.
C'est impressionnant. Surtout qu'il y a des joueurs qui pouvaient prétendre à être dans ce groupe. Je pense à Asensio, je pense à Nacho par exemple, qui méritaient d'être dans ce groupe. C'est vraiment bizarre que. Mais bon, c'est son choix personnel et. Ça réussit pour l'instant.
Après deux matchs, il était à deux doigts d'avoir sa tête coupée Plaza del Rey. C'était quand même. Ils n'en touchaient pas une. Ils ont fait un très bon deuxième match, un très bon troisième match par contre. Ils ont été relativement convaincants en huitième. Là, c'est un tout petit peu moins le cas. Mais je parle un peu vite parce qu'ils viennent d'avoir une action 5 étoiles. Mais ils se retrouvent en prolongation face à la Suisse.
Ouais, tout à fait. Ils se retrouvent en prolongation. Alors oui, en huitième de finale, c'est vrai qu'ils avaient semblé dominer leur sujet. Ils ont eu un moment une saute de concentration, on peut dire ça. Ils sont revenus, ils ont permis aux Croates de revenir dans les 5 dernières minutes et donc de les pousser à la prolongation.
Mais ils ont livré un des plus beaux matchs qu'on ait eu.
C'était sans doute une belle journée.
C'était la superbe journée. Ouais, entre le match de l'Espagne, de la Croatie, de la France et de la Suisse, c'était vraiment une belle journée.
Avec deux scénarios totalement similaires.
Bien sûr.
3-1 à 3-3 en 5 minutes.
C'est vrai.
Et prolongation est bon pour la France, pénalty.
Ça a été autre chose pour la France. On n'a pas
réussi. Mais pour le coup, je trouve que... On voit cette équipe de Suisse qui est très bonne et au début du match, j'ai l'impression vraiment que l'équipe d'Espagne a beaucoup mieux géré son sujet que l'équipe de France, par exemple, sur ce match contre la Suisse. Ouais. Et cette espèce de 3-4-3 dans lequel l'Espagne joue est beaucoup plus compatible que le 3-5-2 que Deschamps a aligné sur le terrain. Et ça a marché un peu mieux. Bon, à la fin du match et maintenant en prolongation, ça fonctionne un peu moins. Mais je trouve que tactiquement, ils ont un peu mieux abordé le match, l'Espagne.
Ouais, c'est vrai. Les Espagnols avaient très bien commencé. Le but, ça a été un but contre son camp. Il y avait une belle frappe, mais le gardien semblait parti sur le bon côté. Et puis ça a été dévié par un défenseur. Et donc, vous connaissez ce coup habituel où il fait son démarrage à droite et puis le ballon est dévié, il va à gauche et puis on voit les gardiens suspendus, ils sont figés sur leur
point d'appui pour essayer de changer parce que ça va très
bien. À chaque fois on se demande qu'est-ce qu'il a fait et après on voit le ralenti, on voit que la balle a été touchée.
Et moi j'ai pensé rapidement que après la débauche d'énergie des Suisses au match précédent, prendre un but aussi dur, aussi j'allais dire contre le cours du jeu, c'était vraiment le début du match, mais c'est vrai que c'est assez rageant de prendre un but comme ça sur une frappe détournée que le gardien semblait être en mesure d'arrêter. Je pensais qu'ils allaient sombrer. Ils ont réussi à relever le défi et à jouer beaucoup mieux jusqu'à la fin de la mi-temps. Et puis, ils ont poursuivi sur cette lancée. C'est Shaqiri. On en parlait avant. On disait que ça doit être qu'il y aille, Shaqiri, parce qu'il avait pas encore, il avait été assez bon contre la France, mais ça avait pas été non plus le meilleur Suisse, alors qu'on s'attend que.
Normalement, c'est lui le meilleur joueur avec Xhaka, c'est lui le leader de cette équipe. Donc,
La Suisse souffre, hein. Il joue un 10 contre 11, et puis.
Et puis, je rappelle qu'il y a pas, il y a justement pas Granit Xhaka, le milieu de terrain qui a été suspendu. Et donc, également Mbolo est sorti assez rapidement dans le match, blessé. Donc, les Suisses ont vraiment toutes les tuiles. Possible et ils tiennent encore.
Ils vont devoir tenir. Je sais pas s'ils espèrent, à mon avis, ils espèrent d'aller au pénalty là.
Je pense que là, il n'y a plus aucune espérance à part les pénaux.
Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Je voudrais parler de l'expulsion parce que l'expulsion était vraiment, moi j'ai trouvé sévère. Alors c'est vrai que il est arrivé rapidement, mais il a les deux pieds au sol, il prend le ballon, mais c'est vrai qu'il emporte tout. Et l'arbitre, surtout que l'arbitre n'a pas semblé hésiter une seule seconde, il a sorti son carton rouge. Je sais pas.
Mais, mais je suis un peu d'accord avec toi et j'aimerais mettre quelque chose sur la table. C'est le niveau d'arbitrage sur cet Euro. En fait, je trouve vraiment bizarre. Je trouve que les arbitres prennent des décisions étranges. Et on l'a vu contre le match, par exemple, parlons de la Belgique contre le Portugal. L'arbitre était bizarre. Il faisait des décisions qui n'étaient pas logiques. Et j'ai l'impression que c'est depuis le début de l'Euro
qu'il a fait des énormes fautes Belgique-Portugal. Je mettrais dans l'idée qu'il a eu un problème de gestion de ce match.
Oui.
C'est pas que tu te dis il a loupé un énorme truc. Non, mais
il a été débordé.
Un match, ça se gère, ça se sent. La question se pose toujours. Quelqu'un commet une grosse faute très rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui dis stop? Est-ce que tu mets une carte jaune pour montrer l'exemple? Ou est-ce que tu dis non, je vais pas parce que sinon le match va vite dégénérer? Il faut le sentir. Et c'est en ça qu'on se dit qu'on a des arbitres d'expérience. Des gens qui sentent la personnalité, qui les connaissent et qui savent comment gérer. Et dans le match contre Belgique-Portugal, et c'est vrai, là je te rejoins, je trouve que ça se marque très fort. Je trouve encore un peu plus depuis ces phases, depuis les huitièmes de finale. On a l'impression qu'on a des arbitres aussi en fin de saison, qui sentent un peu moins le jeu, sentent un peu moins les matchs.
Et alors qu'ils
sont aidés par le VAR.
Et qui savent en fait que s'ils ratent quelque chose d'énorme, le VAR va les appeler. Et donc j'ai l'impression qu'ils prennent plus les décisions qu'ils pourraient prendre normalement, et que de toute manière s'ils se foirent, eh bien ils pourront être aidés par le VAR. Et on l'a vu, le match France-Suisse où le penalty qui est, c'est Mbappé qui subit une faute et on revient au penalty d'avant. Enfin, on a joué peut-être 2 minutes entre les deux penalties.
Ouais, ça a été assez long, c'est vrai.
Et c'est bizarre, enfin,
oui, c'est vrai.
J'ai l'impression vraiment que les arbitres n'osent plus prendre les décisions nécessaires parce qu'ils savent que si jamais il y a une grosse faute, eh bien, le VAR va les aider et va les sortir de leur trou, quoi. Enfin.
Alors, la meilleure illustration, je trouve, enfin, c'est un petit peu différent, mais tout de même, ça rejoint l'idée. C'est sur les hors-jeux où les arbitres, du coup, laissent systématiquement
30 secondes plus tard.
Voilà, où ils les lèvent pas en disant, de toute façon, on va appeler l'arbitre dans l'oreillette 20 secondes plus tard pour lui dire que c'était hors-jeu.
Non, mais ça, c'est horrible.
Parce que En plus, il peut y avoir un risque fort, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir hors-jeu, on ne siffle pas le hors-jeu, et qu'est-ce qui se passe s'il y a une faute?
Non, mais c'est jouer beaucoup trop avec les émotions.
Ouais,
bien sûr.
Jouer beaucoup trop avec les émotions, parce que des fois, tu ne fais pas attention, tu suis d'un côté comme de l'autre, hein.
Et je crois
que pour les joueurs aussi, ça peut tendre un peu les relations.
Mais
ça
bien
peut
sûr.
Tendre un peu les relations.
Mais je pense que, justement, sur le match Belgique-Portugal, ça a joué sur les émotions des joueurs. Les Portugais ne sont pas connus comme des joueurs qui cassent des autres
mauvais,
joueurs.
Ouais.
Et là, ils ont été mauvais sur ce match-là. Enfin, tu vois Pépé qui met un coup d'épaule à Lukaku. Enfin, c'est pas normal. Enfin, certes, Pépé est un peu connu pour être un joueur violent, mais quand même, enfin, c'est toute une escalade de différentes fautes, de différentes choses non sifflées qui font que, au final, les joueurs, au même titre que l'arbitre, sortent de leur match.
Ouais, tout à fait. On se posait une question en regardant la faute. Alors, juste pour préciser, la faute qui a été commise, elle a été commise dans une partie du terrain absolument sans danger pour personne. C'était à une quarantaine de mètres, un peu sur le côté. Donc ça vient, le carton rouge vient sanctionner. Peut-être un excès pas de violence, mais en tout cas un excès d'engagement. Il n'y a sans doute pas de volonté délibérée de faire mal. Enfin, ça certainement. Il n'y a pas de volonté de casser une action puisque c'est pas, il y a rien de dangereux. Et l'arbitre, en sortant ce carton rouge, influe sur le déroulement du match. Et on s'est demandé si le VAR ne pouvait pas intervenir à ce moment-là, c'est-à-dire dire à l'arbitre, tu devrais peut-être aller revoir parce que c'est quand même pas un rouge flagrant. Et est-ce qu'il n'y a pas là le problème? Est-ce que les arbitres entre eux veulent pas se déjuger dans certains sens? Et parce que là, il a dégainé son carton rouge à une vitesse
directement. Il a vu la faute, il a sorti le carton rouge directement. Enfin, mais c'est un peu incompréhensible. On revient là-dessus. Et je pense effectivement. Enfin, pense que de toute manière, l'arbitre de terrain est toujours celui qui prime sur tous les autres. C'est le boss. C'est lui qui décide. Et peut-être qu'effectivement, dans la VAR, on se dit, bon, ben...
Est-ce qu'il devrait pas mettre un jaune en se disant je mets un jaune, si c'est vraiment un rouge, le VAR va,
non,
va,
moi,
va m'interpeller.
Je suis pas sûr.
C'est vraiment un moment important.
Il faut pas changer le paradigme totalement et te dire que l'arbitre finalement va mettre quelque chose de manière conservatoire, quitte à ce que ce soit augmenté ou diminué par la suite. Je pense pas. Je pense qu'il faut que l'arbitre prenne une décision. Et s'il n'a pas vu quelque chose ou si la décision est véritablement mauvaise, de manière flagrante avec l'influence telle qu'on la connaît sur le jeu, dans ce cas-là, il doit y avoir une revue de la décision. Mais je pense pas qu'il doit se dire ça à titre conservatoire pour la jaune, comme je ne pense pas non plus qu'il faille dire il faut aller au bout de l'action pour voir si c'est jugé ou non, pour décider si oui ou non on retient le hors-jeu, alors qu'il y a peut-être eu un goal
qui a été marqué.
Et ça va frustrer tout le monde, ça va polluer les esprits et ça va créer une énorme tension totalement inutile sur le terrain.
C'est juste le foot d'avant le VAR, en fait. L'arbitre a pris sa décision et on revient pas dessus.
Le VAR est à sa maladie de jeunesse. C'est qu'on se rend compte de l'intérêt du VAR, on se rend compte aussi qu'on ne
l'exploite. De ses défauts.
On ne l'exploite pas
encore. Des limites actuelles, voilà.
Des limites. On ne l'exploite pas encore de la manière la plus intelligente, mais on ne sait pas encore, on teste encore les meilleures possibilités pour pouvoir l'utiliser. Bon, le foot, c'est pas comme le tennis, c'est pas comme le rugby,
c'est
pas
comme le football. C'est émotionnel.
Mais je ne dis pas que les autres.
C'est la première vision. C'est quelque chose qui est qui tu la juges à ta première impression. Comme au tennis, tu peux pas juger une balle qui est dehors à la première impression si elle tape la ligne avant.
Le football, c'est quand même. Il y a assez peu de situations vraiment comparables à celle du tennis où la balle est out ou in. Il y a effectivement est-ce que le ballon a franchi la ligne de but ou pas? Ça a été réglé avec la goal line technologie.
Grâce à
Michel Platini, si tu nous écoutes. Mais le VAR, c'est vrai qu'il y a des adaptations qui seront sans doute.
De son exploitation, de quand on l'exploite, de comment on l'exploite. Je pense que c'est vraiment pas réglé, ça.
Oui, moi je pense qu'au hors-jeu, justement, où on en parlait l'autre soir avec Alex Demeter, je pense, où il disait que la technologie permettra très certainement dans quelques années d'avoir quasiment à l'instant où la passe est donnée, ou une seconde plus tard, pouvoir dire de manière sûre ou non si l'attaquant est hors-jeu ou pas.
Oui.
Parce que là, c'est vrai que c'est ridicule de laisser.
C'est insupportable. Enfin, je reviens encore sur le match Belgique-Portugal, le hors-jeu de Lukaku. Enfin, il est hors-jeu d'un orteil, quoi. Enfin, ça devient insupportable. C'est hors-jeu avec cette espèce de ligne. On sait même pas quel est le calibrage de cette ligne. Enfin,
c'est Belgique-Finlande, hein.
Belgique-Finlande,
parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions à Belgique-Portugal.
Non, c'est vrai, t'as raison.
On a vu Belgique-Finlande, oui, mais honnêtement, moi je le regardais avec des amis. Dès qu'on l'a revu en ralenti, au premier ralenti, on s'est dit immédiatement c'est bon, il est bon.
Et
il a fallu qu'on regarde, qu'on trace quasiment une ligne, qu'on prenne notre compas pour vérifier. C'était ridicule.
Et on n'est même pas sûr que cette ligne soit certaine.
On l'a déjà dit ici plusieurs fois, il faut simplement que la personne soit hors du jeu. Pas qu'il y ait un orteil ou une mèche de cheveux.
Bien sûr, qui bénéficie de la position du hors-jeu. C'est la base de la règle du hors-jeu.
Tout à fait, non, c'est... Bon, en tout cas le match se poursuit, on en est à la 108e minute, il y a toujours un but partout et les Suisses sont vraiment vaillants, très courageux. On sait pas vraiment comment ils vont réussir à s'en sortir pour le moment puisque même s'ils pourraient procéder par contre-attaque, mais ils sont tout de même un de moins que les Espagnols. Je vous propose qu'on laisse ce match se dérouler en même temps qu'on parle et qu'on attaque le plat de résistance, le sujet qui nous préoccupe le plus ce soir, Belgique-Italie. Alors la composition est tombée.
Ah, c'est ce soir Belgique-Italie.
Il paraît.
D'accord.
La composition est tombée.
Bonjour Didier.
Il vient de rentrer dans le studio. La composition est tombée. On se demandait si Eden Hazard et Kevin De Bruyne allaient jouer. Eh bien en tout cas, l'un des deux jouera. Kevin De Bruyne est titularisé, tout comme, et là c'est une petite surprise quand même, tout comme Jérémy Doku.
Ah, moi je suis admiratif de cette décision. Franchement, il y a très peu d'entraîneurs qui mettraient un gars de 20 ans sur le terrain à la place de Hazard. J'en connais beaucoup qui mettraient un défenseur à la place ou un milieu de terrain défensif. Et c'est moi, enfin
il
moi
avait trois choix.
Tu veux dire autant tactiquement que techniquement.
Le groupe vit bien.
Le groupe vit bien, ce genre d'entraîneur là qui mettrait c'est possible.
En même temps, vu
qui mettrait un Rabiot arrière gauche par exemple,
qui mettrait Sissoko à la place de Griezmann alors qu'il reste quelques minutes. OK, bon.
Vu le match contre le Portugal, ça aurait pas été étonnant qu'on continue dans cet esprit équipe de France, hein.
Mais bien sûr, non mais bien sûr, justement, c'est pour ça que je suis admiratif de cette décision. Enfin, il y a d'autres personnes à mettre, il y a Mertens, il y a Carrasco et il met Doku.
C'est ce que j'allais dire. Il y avait trois choix, Mertens, Carrasco, Doku. Mertens a montré qu'il était,
il est
pas dans
fini,
son euro. Carrasco a été relativement décevant.
Reste
et Doku a pas été, Doku non, a pas a été mauvais contre bon, la Finlande. Hein. Il a un peu dynamité les lignes arrière. Enfin, on connaît Doku, c'est très très technique. Après, c'est un peu brouillon devant le but, mais ça reste un joueur qui est très rapide, très technique, et ça fait du bien devant.
Honnêtement, face à cette structure italienne, cette défense
bien
italienne,
ça, on va y aller nous.
Cette structure italienne, à mon avis, ça c'est pas une mauvaise idée.
Bien sûr, et les latéraux italiens ne sont pas excellents, donc. Il pourrait essayer Di Lorenzo, je pense que Doku peut réussir à le chambouler, je pense.
Moi, je pense aussi que, à mon avis, Martinez a pris en compte aussi la défense italienne avec Bonucci et Chiellini, et que Doku, dans ce coin-là, comme on sait qu'il adore déborder et rentrer dans l'axe, il a toutes les chances
ouais,
de passer
leur faire
les
mal.
Papilles.
Il peut
quoi,
leur faire mal, ouais.
C'est vrai que eux deux seront sans doute bien occupés avec Romelu Lukaku.
Aussi.
Et ce qui fait que s'il réussit à prendre l'avantage en 1 contre 1 face à son latéral, eh ben, il aura de la place sans doute pour rentrer dans le jeu. Donc c'est vrai, et c'est une décision risquée, mais c'est du panache. Bravo.
Ouais, je suis assez d'accord
Martinez.
Avec Blaise aussi.
Je suis admiratif de cette décision.
Quand j'ai vu la composition, j'ai eu deux gros coups de cœur. D'abord de savoir que Kevin De Bruyne était sur le terrain. C'est toujours un plus de savoir. S'il est mis, je sais pas s'il est à 100%, mais s'il est mis, c'est que Martinez considère qu'il est apte à jouer une bonne partie de la rencontre.
Bien sûr, et on l'a vu à la fin du match contre le Portugal. Il marchait bien, il y avait pas. Enfin, moi j'étais beaucoup plus.
Est-ce que tu as vu comment les gens étaient? On regardait s'il marchait bien quand ils sont descendus de l'avion. On a regardé bien est-ce qu'il
boit. Bien sûr.
Le moindre petit détail est important.
Moi-même, je vous ai envoyé les photos de Hazard et De Bruyne qui rentraient dans le bus pour aller à l'aéroport. C'est déjà quelque chose.
Hazard et De Bruyne, c'est nos Pogba, Mbappé, Griezmann et Benzema à nous. Je veux dire, je pense que si Pavard boite, ça n'intéresse personne. De même que si demain, c'est triste à dire, mais Meunier, il peut boiter, ça va pas émouvoir la Belgique entière.
C'est vrai.
Même si vous, ça n'émeut personne.
D'ailleurs, on pense à Timothy Castagne.
Franchement, enfin ça c'est horrible. Moi, j'ai déjà parlé de Meunier sur ce plateau, mais enfin
le nombre de
fautes techniques qu'il a faites contre le Portugal. Enfin,
oui, mais attends, contre le Portugal.
En même temps, c'est lui qui amène le but.
Il a tenu la baraque.
C'est lui qui fait l'assist, hein. Enfin l'assist. Il donne la balle à Tanguy.
Le nombre de têtes qu'il a fait pour empêcher que la balle arrive vers Ronaldo, c'était lui en première ligne avant Vermaelen. Et il en a eu quelques-unes. On sait bien, on connaît ses qualités et ses défauts.
Puis en même temps, il y a une chose qu'on peut jamais lui reprocher à Meunier, c'est de mouiller le maillot.
C'est vrai.
Le mec, il va au charbon, de la première à la dernière minute. Faut pas oublier non plus que c'est un piston, hein.
Il ne triche pas.
Il ne se cache pas non plus.
À part quand il y a Paris-Dortmund.
Ça, je sais pas.
il ne se cache pas non plus. C'est un gars qui, on peut dire qu'il, comme tu dis, il ne triche pas. Parce que finalement, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je n'ai pas la dent dure et apparemment Eden non plus. Mais c'est quand même lui qui est à la base de tous les problèmes physiques qu'Eden a pu avoir à répétition, je veux dire. La première fois qu'Eden a été absent des terrains, c'est suite à un tacle de Thomas Meunier en Champions League.
C'est vrai.
Et c'est quand même un copain. Donc voilà, il joue pour un club, il est à 100% dans son match. Et peu importe qui est en face.
Les joueurs de la sélection belge sont capables d'être magnanimes et de passer devant choses, hein. Je pense à Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, qui jouent très bien ensemble et qui ont quelques petites anicroches, des histoires
C'est une question de tempérament.
Non, mais c'est vrai.
Tandis que là, c'est quand même.
Non, mais c'est important de remettre ce sujet sur la table. Enfin, ces gars-là, vivent bien ensemble et ils sont capables.
Là, pour le coup, on peut le dire. Le groupe vit bien, je pense.
Exactement. Mais
vous étiez pas né. Moi, je me souviens d'un attentat, mais là, c'était un attentat. Meunier, ça n'a rien à voir, évidemment. C'était un fait de match. On va dire, qui s'est mal terminé. Mais il y avait De Slover qui a détruit complètement la carrière de Juan Lozano, qui à l'époque faisait les beaux jours de l'équipe d'Anderlecht. Voilà, et puis c'est plus personne. De Slover, sa carrière s'est terminée en même temps que celle de Lozano, je veux dire. Il pouvait plus mettre un pied dans un stade. Meunier, apparemment, bah, tout le monde est d'accord que c'était pas une
Florentino Pérez, le président du Madrid, a eu des mots très très durs avec lui, apparemment. Hein.
Meunier,
ouais, ah oui, avec Meunier. Ça s'est assez mal passé. Mais...
Bah, c'est mal passé parce que Florentino Pérez, la blessure de Eden Hazard, lui fait mal là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie, quoi. C'est clair, parce qu'on ne peut pas dire que Eden soit son chouchou absolu. C'est le gars qui lui a coûté X. Et voilà.
Et pour l'instant, le retour sur investissement n'est pas vraiment là. Mais bon, côté belge, on s'en fiche un peu. Hein.
Complètement.
C'est ça, je suis assez enthousiaste, en tout cas, par cette composition. Je ne sais pas si elle permettra de passer, mais je trouve qu'en termes de partie d'échecs, sur papier, on sait bien que De Bruyne va avoir ce rôle de passeur, mais pas très très vite une fois qu'il a la balle, mais pas forcément d'infiltreur dans les petits espaces, ce que Doku va peut-être pouvoir faire. Donc je trouve ça, comme Eden peut des fois l'être, je trouve ça super complémentaire, très bien réfléchi.
Ils en ont parlé tous les deux. Leur relation entre Doku et De Bruyne, c'est vraiment une relation de maître et d'élève. Et enfin, vous vous souvenez ce but qu'il marque pour sa première sélection, où il dit, c'est pas moi qui ai fait l'appel, c'est De Bruyne qui m'a donné la balle. Et j'ai l'impression que vraiment ces deux gars se comprennent en fait. Et Doku prend les espaces et on connaît la qualité de passe de De Bruyne.
Je me souviens, il avait dit, je me demandais si Eden m'avait vu, mais enfin c'est
Kevin.
Si Kevin m'avait vu, mais enfin c'est Kevin.
C'est ça, ouais, c'est ça.
La balle lui était tombée dans les pieds, mais c'est vrai.
Et c'est pour ça que moi, je suis enthousiaste par rapport à ça, parce que évidemment, en Italie, on connaît Lukaku par cœur, parce que tous ces gars-là jouent contre.
Alors justement,
Lukaku,
venons-en à Lukaku. Saison. Lukaku, il fait un bon euro. Si vous deviez, sur 5 étoiles, vous diriez qu'il est à combien? On peut forcément être frustré un peu par le fait que c'est le meilleur, ça a été le capo cannoniere en Serie A, meilleur buteur du championnat d'Italie, et qu'on s'attendait, ou on espérait peut-être qu'il explose les statistiques lors de cette compétition. Il a pas beaucoup marqué. C'est relatif ce que je dis.
Les 3 buts.
Oui. Mais bon, c'est dans le premier tour. Ça. Mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Il permet pas aux Belges de s'acheter un téléviseur.
C'est ça, voilà.
Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que justement.
Ronaldo,
alors maintenant, il va être.
Il a mis 5, il a eu deux pénaux.
Oui, oui. Non, mais là, il va être justement face à des schémas qu'il connaît plutôt bien, des défenseurs qu'il connaît bien, des défenseurs contre lesquels il réussit. Alors, je sais pas, j'ai pas la statistique sur Chiellini, Bonucci en particulier, mais c'est un environnement face à des joueurs italiens qu'il côtoie. Est-ce que vous pensez que justement, il a quelque chose de particulier?
Il y a une grande différence sur les 4 matchs qu'a joué la Belgique. 2 des matchs, c'est-à-dire la moitié, sont des matchs où la Belgique a joué en deçà du style tel qu'on le connaît depuis de nombreux mois, depuis de nombreuses années. Alors lui, il peut être un ouvre-boîte, mais pas forcément. Pas forcément. C'est quand la Belgique déroule et en marque 3-4, comme ça se passe très souvent dans les phases éliminatoires, évidemment, il a toujours son mot à dire. Et dans les autres matchs, oui, des fois, il marque un goal. Mais là, contre le Danemark et contre le Portugal, on n'a pas eu beaucoup d'opportunités.
Ah non.
Non, mais d'un autre côté, il faut voir aussi. Alors, maintenant, tout le monde l'attend. Je pense qu'il a un travail peut-être beaucoup plus ingrat que dans d'autres matchs, parce qu'aujourd'hui, son rôle à lui, indépendamment d'être là au bon endroit, au bon moment, s'il peut l'être, c'est de créer des espaces pour ses copains. Et finalement, le but de Thorgan, on peut l'attribuer en grande partie aussi à Lukaku, qui a aspiré deux défenseurs sur lui, et ça a ouvert la fenêtre de tir, on l'a déjà dit dans cette émission.
On peut l'attribuer aussi en partie à l'animal de compagnie de Deschamps. Hein, quand même.
d'un autre côté aussi, je trouve que, par exemple, contre le Portugal, on a vu toutes les faiblesses de Lukaku, en fait, parce qu'il était seul devant et que on lui donnait le ballon et
débrouille-toi un peu, ouais.
Débrouille-toi, et on sait, Lukaku a certes énormément progressé, mais quand il est seul face à 3 défenseurs, il n'est pas capable de faire la différence. Enfin, absolument pas une critique envers lui, parce que c'est un super joueur. Non mais attends, quand il essayait de prendre de vitesse Pepe et Ruben Dias, on voyait qu'il galérait avec ses pieds, qu'il n'arrivait pas à trouver le ballon et qu'il s'en mêlait.
Moi, j'ai pas la même appréciation que toi là-dessus. Je me souviens d'une phase qui a été d'ailleurs contestable et contestée, quand il se défait de 2 joueurs et puis on le retient par le maillot.
évidemment, non, mais parce qu'il a progressé.
Après, sur la droite, toujours contre le Portugal, à un moment, il se défait de trois gars. Romelu, pour aller lui chercher la balle, bonjour, donc c'est toujours du temps
gagné.
Non,
mais je suis d'accord avec...
Mais...
Vas-y, pardon, excuse-moi.
Non, je pense qu'il a fait son match. Il n'est pas dans le même rôle que d'habitude.
Je n'ai pas du tout dit qu'il n'avait pas son... Je ne l'ai pas critiqué, j'ai juste dit que...
Non, j'ai bien compris, mais ce n'est pas toutes ses limites ou sous ses défauts, je pense.
Non, mais il a forcément des limites et des défauts. Ce sera jamais Ronaldinho à qui vous pouvez filer le ballon, et s'il est entre trois joueurs, il va quand même trouver une solution. Lui, oui, il va falloir que les circonstances, qu'il ait un peu de vitesse peut-être, qu'il les passe. Je veux dire, arrêter, il dribblera pas trois joueurs.
J'ai pas envie de dire que c'est un faux neuf, mais c'est un gars qui est...
Non, mais faux neuf qui marque 28 buts.
Il est neuf, mais qu'est-ce qu'il est utile en déviation?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il est utile en pivot? C'est un colère avec un Radzinski et un Van de l'époque.
Oui, mais ça suppose que l'autre attaquant soit pas trop loin, parce que une déviation où tu trouves...
Contre le Portugal...
Il était seul devant.
Excuse-moi, son approvisionneur, son dealer, j'ai envie de dire, était absent, c'était Kevin De Bruyne.
Oui.
Qui était sorti à la 48e minute.
Mais il y a des explications à tout.
Tielemans n'a pas fait un très grand match en termes de
déviation contre le Portugal.
Mertens, quand il rentre, il est mauvais.
Sur Lukaku, moi, peut-être une synthèse entre ce que vous dites. Clairement, c'est quelqu'un, par contre, je pense qu'il s'est tellement amélioré, à la fois à la fois pour éliminer éventuellement 2-3 par une pointe de vitesse. Il a toujours eu une faiblesse que je n'avais plus vue ces derniers mois. C'est une petite maladresse dans ses pieds.
Bien sûr, c'est la qualité technique.
Voilà. Qu'il avait vachement gommé.
Tout à fait.
Et j'avais trouvé qu'on ne le voyait plus. Et je trouve qu'à 7 euros, à 2 ou 3 reprises, j'ai retrouvé certaines mauvaises touches de balle, certaines maladresses. Rien de grave. Rien du Lukaku qu'on pouvait critiquer.
Mais c'est pas le Lukaku de l'Inter.
Mais un Lukaku.
Il faut dire aussi.
Qui commettait peut-être 2-3 plus petites bourdes auxquelles il nous avait plus habitués. Rien de choquant. Il n'a rien perdu de ses qualités. Mais c'est vrai que ça a pu nous étonner. Je crois pas que c'est ça qui fait qu'il a marqué moins de goals. Il a marqué moins de goals parce que la moitié des matchs étaient des matchs où la Belgique, étonnamment, de manière surprenante, comme on n'en avait plus l'habitude, subissait.
Alors, il faut peut-être aussi remettre les choses dans leur contexte. Je me rappelle d'une phrase d'un commentateur français qui disait c'est pas PSG, c'est pas
Valladolid.
Le Portugal, c'est pas non plus j'allais dire Sassuolo, mais Sassuolo pour le coup ils ont bien joué, mais c'est pas la Fiorentina ou c'est pas Lecce.
Ruben Dias qui a été élu meilleur joueur de première ligue par ses pairs, enfin quand même c'est...
Ouais, tout à fait. Alors je peux vous annoncer que le match est terminé et que ça va être on va aller
au
tir au but la deuxième fois de suite pour les Suisses. Sommer a fait une énorme prolongation, on l'a vu sur beaucoup d'arrêts. Il a déjà été le héros en sortant le penalty de Kylian Mbappé, le tir au but pardon.
C'est vrai qu'on peut revenir là-dessus un instant. C'est vrai que c'est lui qui sort le péno et c'est pas Mbappé qui le rate, parce que le penalty n'est pas spécialement mal tiré.
Il est bien tiré.
On dit toujours qu'un penalty bien tiré est toujours goal, donc il manquait probablement de puissance ou un tout petit peu de précision, mais on peut pas dire qu'il a raté.
Non, c'est ça.
On connaît la qualité de Sommer sur les penalties. Enfin, on l'a déjà vu à l'Euro 2016. Et d'un autre côté aussi, enfin, il y a Lloris.
Lui, il avait aucune chance de...
Mais c'est vrai que Sommer est un très bon gardien sur penalty. C'est un bon gardien en général, mais c'est un très bon gardien sur penalty.
Mais c'est vrai que pour revenir à la frappe d'Mbappé, elle est
mauvaise.
Non, elle ressemble à celle de Kimpembe de l'autre côté. Voilà, il y a peut-être 20 ou 30 centimètres un peu moins excentré, donc plus facile, encore que c'est...
Mais par contre,
c'est magnifique.
Pendant cette séance de pénalty, les pénaltys avaient tous été particulièrement bien tirés.
Ça, c'était relativement
impressionnant.
Je me concentrais essentiellement sur ceux des Français, bien sûr, et ils avaient... Non, mais les quatre premiers, et c'est vrai que ça a été la différence avec Mbappé, mais j'en ai déjà parlé ici, il y avait le coup de sifflet de l'arbitre, et ils marquaient tous un temps d'arrêt où on sentait qu'ils étaient... à se concentrer, à se dire voilà, je vais tirer à tel endroit, je prends mon temps et j'y vais. Alors que quand l'arbitre a sifflé pour Mbappé, déjà avant qu'il siffle, Mbappé ne faisait que regarder l'arbitre pour voir s'il allait se dépêcher de siffler, et on avait l'impression qu'il voulait en terminer au plus vite.
Moi je veux dire, je tire mon chapeau à l'équipe suisse.
Ah oui.
Parce que ces gars sortent d'abord de nulle part, ensuite ils ont fait un match grandiose à leur niveau contre la France, ils ont été au prolong, ils sont allés au péno. Ils ont eu, une mentalité juste incroyable. Et là, il ne faut pas oublier qu'ils auront joué 45 minutes et plus les arrêts de jeu, c'est-à-dire 1 et 4, ça veut dire 50 minutes à 10 contre 11 contre l'Espagne. Et finalement, ils arrivent au pénalty et il n'y a pas eu de tir sur le poteau ni sur la latte.
Mais l'Espagne pourrait s'en mordre les doigts hein, s'ils perdent les pénalty. Ouais. Parce que là, ils ont essayé, pendant ces deux prolongations, de tuer tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ont été dominateurs, mais jamais, comme tu viens de le dire, jamais totalement dangereux.
À partir du moment où ce jeu de passe latéral où on ne va jamais devant le but et on essaie de rentrer avec la balle dans le but, ça devient...
Ils ont eu les occasions.
28 tirs, dont 10 cadrés pour les Espagnols qui ont possédé le ballon 73% du temps contre 27%. Alors déjà, ils ont une tendance à posséder le ballon facilement. Quand vous jouez contre une équipe qui est à 10 et qui recule, c'est vrai que c'est beaucoup, ça fait une différence forte. J'ai les passes, le nombre de passes, 369 côté suisse, 970 côté espagnol, ça fait une sacrée.
Mais là, celui qui va passer, il va être cuit là. Hein. Enfin, les deux prolongations là.
Pour nous, quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. En même temps, il faudra pas qu'on s'endorme. Enfin, si on se qualifie aussi.
Oui, hein. Commençons par là.
Enfin, pour le vainqueur de notre match, ce sera un oiseau pour le chat. En théorie, parce que souvenez-vous, les Croates, on avait dit la même chose. Et les gars, ils ont joué un match de plus que les autres et ils sont allés en finale et ils n'ont pas été ridicules en finale non plus. Loin s'en faut. Mais je voulais revenir un instant aussi sur la mentalité suisse. C'est juste incroyable parce que en plus de ça, ils n'ont pas mis le bus. Ils étaient juste un de moins, donc ils n'avaient pas les possibilités d'aller devant, un petit peu comme nous sans De Bruyne. Voilà, on avait un moteur sans essence. Mais ils ont eu en prolongation pas. Ils n'ont pas eu des occasions, ils ont essayé de sortir en contre, mais ils n'ont en aucun cas, ni contre la France, même quand ils menaient, puisqu'ils ont failli mettre, ils ont failli mener 2-0 d'ailleurs, hein, et c'est ce que je disais, il ne faut pas oublier, les gars, ils mènent 1-0, ils doivent mener 2-0, ils ratent un péno, mal botté celui-là, dans les 3 minutes qui suivent, ils en prennent 2, dans le 10 minutes après, c'est 3-1, et ils se relèvent encore. Moi, je dis, comme dit l'adage, le canard n'est pas mort, c'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à produire.
C'est quoi cet adage?
Mais tu connaissais pas ça? Il y avait une chanson comme ça, on disait genre, le canard n'est toujours pas mort.
Tu connais pas Blaise, tu connais?
Non. Je pense que c'est pas de mon âge.
Ben voilà, t'as beau tirer dessus, faire tout ce que tu veux, il est jamais mort.
Il survit. Ça me rappelle une blague que tu m'as racontée tout à l'heure, mais on la fera pas à l'envers.
Mais moi, je pense pas mal à ces joueurs suisses. Et c'est super.
Moi, j'ai raconté
une
blague, non.
Ils doivent être super fiers.
Mais ils doivent être fiers, mais pour l'influx nerveux, je serais curieux de voir.
C'est Busquets qui va s'élancer.
Nerveux pour ces gens. En 4-5 jours, se taper 2 séances de pénalty.
Je te dis, les Croates en ont eu 3. Hein.
Oh et Busquets sur le poteau. Premier tir au but espagnol.
Mais qu'est-ce que tu nous gâches,
chez
nous?
Regardez chez moi.
Et pour vous dire, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite à Zurich et qui m'a envoyé des vidéos de la liesse à Zurich le soir de la qualification et ils sont vraiment fous, les Suisses, quoi.
Ils ont senti les cloches.
Ils sont en feu, quoi.
Et écoutez, l'Espagne, il vient de louper le premier. Busquets, l'expérimenté capitaine,
celui qu'on attend, enfin que l'Espagne attendait après avoir contraté le Covid, c'est dur pour lui. Hein.
C'est dur pour lui. C'est Gavranovic, lui, qui va s'élancer. Gavranovic qui est rentré en cours de match, dont j'ai dit qu'il allait décider du match, donc a priori il devrait louper. Eh bien non, le met sur la droite du gardien, super bien tiré, dans le petit filet. Sur la droite.
La Suisse mène donc un pénalty à 0.
Voilà, 1 à 0.
Il reste 4 tireurs.
Mais s'il passe, la Suisse, c'est vraiment dingue quand même. Hein.
Ah ouais.
Bah pareil pour. C'est la même chose pour les Espagnols.
Non, mais sorti la France et l'Espagne, c'est plus.
Et en même temps, je vais dire, ce serait mérité au vu du premier tour, parce que l'Espagne n'a juste rien montré, le troisième match, encore, les autres étaient complètement démobilisés. Enfin, c'est l'impression qu'on en avait. Mais finalement, les Suisses, ils ont joué crânement leur chance dans tous les matchs.
Et en plus, c'est la même équipe qui prend 3-0 contre l'Italie dans les poules.
Ce matin, j'ai un peu analysé les revues de presse italiennes.
Ils sont tous à fond derrière leur équipe.
Ils sont tous à fond, mais ils sont pas du tout. Ils craignent énormément. Contrairement à, j'avais fait le même exercice avec le Portugal où les Portugais étaient très très sûrs d'eux, étonnamment avant le match. On n'est pas du tout dans le même registre du côté italien. Mm-hmm. Il y a parce qu'ils connaissent surtout Lukaku.
Mais je pense, on en parlait hors antenne, mais je pense vraiment que sur ce match-ci, l'expérience va beaucoup jouer et on en avait déjà parlé au début de l'Euro.
cette équipe italienne n'a aucune expérience internationale actuelle.
Ouais,
enfin,
c'est vrai.
On parle pas de l'Italie historique.
Tu nous as dit que la Turquie allait aller loin. Ne nous dis pas que les Belges vont gagner. Je t'en supplie.
Ça va me suivre toute ma vie, ça.
Ça, je peux te dire.
C'est enregistré en plus.
Clairement.
C'est sur Spotify puisque vous pouvez retrouver toutes nos
émissions
sur Spotify.
J'ai
supprimé. Oh, loupé côté suisse. Les Espagnols avaient marqué avant et donc on se retrouve toujours.
Presque égalité. Il faut voir maintenant. Ils ont eu deux pénalties, ils en ont raté un.
Un chacun.
Et maintenant,
ils sont à égalité.
C'est qui a commencé à tirer? Ah oui, ils sont à égalité. Tu as raison.
Busquets.
Autant pour moi.
Ouais.
Je voulais te dire, j'ai écouté l'équipe RMC. Chaque fois qu'ils se loupent, ils disent ah, tu nous fais une blaise là.
Ah, c'est un honneur pour moi. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez de ce soir? Est-ce que c'est au milieu de terrain que va se jouer le match techniquement ou est-ce que
Moi, c'est ce qui me fait le plus peur dans l'équipe d'Italie. C'est
oh, Red Sommer encore, incroyable.
Quel gardien.
Il a eu la chance sur le premier tir qui a touché son poteau droit.
Il est mal botté.
Mais comme celui du Suisse avant où on a eu l'impression qu'il savait pas tellement ce qu'il devait faire.
Moi, je m'attends à un match qui soit, vu que notre émission n'est pas du tout décousue aujourd'hui.
Très mal tiré.
Non, pas du tout.
je m'attends à un match qui commence un peu à la Belgique-Portugal. Hein.
Et c'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Je pense que les deux équipes vont se jauger. Je pense que celui qui va marquer le premier, j'espère d'une certaine manière, j'espère que ce sera nous, quoi qu'il arrive, mais je veux dire, pour la beauté du foot en spectateur neutre, ce serait bien que la Belgique marque en premier dans la mesure où les Italiens vont pousser et que notre sport à nous, c'est la contre-attaque et qu'à partir de là, ça peut être vraiment débridé.
Alors, est-ce qu'on se risque à faire des pronostics?
Moi, c'est trop. Comment vais-je dire? On est trop.
Il y a trop d'affect.
Voilà, il y a trop d'affect. Exactement le mot que je cherchais.
Les Suisses vont tenter de prendre l'avantage.
Je me lance sur un 2-0 pour la Belgique.
Mais j'ai parié 2-0 moi.
Oh, et loupé côté Suisse, on a encore fait le coup du petit pas juste avant de botter sur la droite du gardien de but qui l'a arrêté. Il a fait son petit
manque de puissance
et mal tiré.
On vient de dire qu'ils avaient extrêmement bien joué leur séance contre la France.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ben, pour faire une petite note d'humour, parce qu'on va terminer un peu plus tôt, c'est ce qu'on avait dit, en vous tenant informé, bien sûr, de l'évolution des tirs au but. Mais tu as vu cette pétition qui circule? Sérieusement?
Non mais attends, 250 000 signataires quand même.
Ce matin c'était 200 000. Il y a 250 000 Français qui ont fait une pétition, signé la pétition pour qu'on rejoue le match France-Suisse.
Mais c'est des gens qui connaissent pas le foot.
Parce que Sommer aurait bougé un petit peu avant le pénal.
Je veux bien vous lâcher, mais je vais commencer à penser que vous avez une obsession avec les Français.
Ça y est,
ils sont éliminés, ça y est.
Non mais tu avoueras autre chose. Tu avoueras franchement. Que c'est quand même un cas unique. Non, mais une pétition.
Qu'on disait en France, il y a Éric Zemmour et LCI qui a fait une émission spéciale pour savoir si c'était bien ou pas que Benzema revienne. Ils se prennent la tête avec tout et n'importe quoi.
On est d'accord.
Moi, cette guéguerre franco-belge, elle me rend fou. Je trouve ça insupportable.
Je serais péruvien, j'aurais fait la même réflexion.
Mais
comment ça me bizarre.
La question que je me pose depuis le début, on en a déjà parlé, est-ce que cette guerre belgo-belge n'est pas uniquement vue du territoire belge?
Mais justement, non. J'ai passé une semaine en France et et à partir du moment où tu dis que tu es belge, c'est la deuxième étoile, le truc. Enfin, moi je suis là, ok, super, vous avez gagné votre Coupe du Monde. Enfin, nous on l'a pas gagné, on est un petit pays de foot, on est 10 millions, vous êtes 70 millions, on arrête quoi, enfin c'est fini.
Les Espagnols sont devant.
Les Espagnols sont devant, oui, il y a eu un nouveau loupé. De Vargas, celui qui avait loupé.
Il a même pas cadré.
Cette guéguerre a vraiment...
Depuis ce match de 2018...
Ce n'est plus le petit frère qui garde le grand frère, qui regarde ailleurs. C'est le grand frère qui regarde également le petit frère.
Mais oui, enfin, on a vu ce drapeau français brûlé à Flaget.
Mais ça, c'est n'importe quoi.
Enfin, on perd la tête, là.
Oyarzabal, qui joue à la Real Sociedad.
C'est la balle de match?
Oui, il va tirer la balle de match puisque l'Espagne mène 2-1 et que c'est le cinquième tire au but et que l'Espagne a commencé à tirer, donc s'il marque il y aura 3-1 et la Suisse ne pourra pas revenir. Oyarzabal qui est entré en cours de match, c'est le coéquipier de Adnan Januzaj.
C'est
Real Sociedad, oui.
Alors on dirait qu'il allait savoir.
Il est gaucher, je l'ai dans mon équipe, mon petit gazon, et il le met contre l'Espagne qualifiée pour les demi-finales.
Voilà, c'est fait.
Et écoutez, on les attendait vraiment pas là. Hein. On
écoutez, les vraiment L'Espagne pas rencontrera soit l'Italie,
soit la Belgique
en demi-finale.
C'est dans 18 minutes.
Et dans tous les cas, ce sera une demi-finale qui
vaudra la peine d'être vécue.
Oui,
c'est ça. Et en attendant, il y a le quart de finale qu'on attend tous. Ce que je vous propose, c'est justement...
Et moi, je suis triste pour les Suisses.
On peut les féliciter.
On félicite les Suisses
aussi, mais on peut les féliciter pour 7 euros.
Bravo.
Bravo les Suisses, vous avez été formidables. Ça servait à rien.
Ah, ça vient du fond là.
Non, pour le coup, ils ont vraiment été formidables.
Et du coup, la France n'aura pas été éliminée par le champion d'Europe.
Mais la France est restée invaincue, monsieur.
Mais les Suisses, mais neutres jusqu'au bout, ils n'ont pas voulu se mouiller.
C'est vrai, ils ont attendu les tirs au but. Bravo à eux.
On se retrouve dimanche, nous.
Eh oui. Alors, on vous souhaite à toutes et à tous un très bon match. Et allez les diables.
Allez les diables.
Bon All match à vous tous et allez les diables.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רחות עצים לאים בטות, ושנינו שיקורים. אם ייפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
אחר כך לבד אתה תתעורר באיזה שהוא מוטל על המיטה תשכב אישה מחוצה באלכוהול והיא תדבר איתך על אהבה שמתה אל תבכה ילד, אל תבכה לך לא היה לי אומץ לקלקל לך חלום תמיד תראה לא נשאר כאן שום דבר יפה אל תבכה ילד אל תבכה יום אחד אתה תתעורר איזה שהוא מוטל על המיטה תשכב אישה
והעיניים האדומות רואות את הדברים המשותפים אחד יש את האחת שלו שתסגור איתו מעגל לכל אחת יש את האחת שלה שיבוא ויפול בגורל כמו בגד לגוף כמו אוויר לנשימה ובתוך הטירוף הם מוצאים נחמה
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
לפעמים פותח דלת אבל הרוב אדם בתוך עצמו נזכר לפעמים עצוב אמר